France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai voulu, à mon retour en Europe, apporter aux artistes français une intéressante nouveauté qui fut en même temps pour eux un souvenir de moi, après une longue absence, employée tout entière à la propagation des beaux-arts dans l'autre hémisphère. Ainsi débute le voyage pittoresque et historique que le peintre Jean-Baptiste Debray publia en 1834. Après une longue absence, en effet, un exil plutôt pour l'artiste jacobin, élève de David, ethnologue de la naissance d'une nation. Ce don aux artistes, les Français n'en ont pas voulu, et l'on oublia bien vite Debray et son livre. Mais lorsqu'il fut traduit en portugais, un siècle plus tard, les aquarelles de Debray, exceptionnelles de précision et troublantes d'ambiguïté, formèrent l'imaginaire brésilien. C'est donc un Français qui a peint le livre d'images du Brésil. Dès lors, se pose une question. Comment les artistes brésiliens aujourd'hui peuvent-ils répondre de ces images? Comment peuvent-ils répondre à ces images? Comment? Eh bien, en les relançant jusqu'à nous, en les détournant, en les cannibalisant, en les carnavalisant. Le Brésil illustré, l'héritage postcolonial de Jean-Baptiste Debray est le titre de l'exposition qui présente cette aventure visuelle et politique à la Maison de l'Amérique latine à Paris jusqu'au 4 octobre. On en parle avec Livia Melzi et Jacques Linhart, bientôt rejoints par notre sociétaire du jour, Hortense Bellotte. On en parle en ayant évidemment en tête ce que disait le grand anthropologue Gilberto Freire de cette intéressante nouveauté qu'est la culture brésilienne.
Le cas brésilien est un cas unique de contact de cultures et de contact des races différentes. Mais ce contact produit une synthèse qui est très brésilienne, qui a l'élément européen, l'élément indien, l'élément africain et dans les dernières 50 années, l'élément japonais. Tous sont présents dans une nouvelle culture brésilienne, qui est une culture avec différence des groupes, mais aussi une grande harmonie.
Gilberto Frère, les après-midi de France Culture, 1976. Bonjour Jacques Linhart.
Bonjour Patrick Boucheron.
La littérature, l'art, les jardins, voilà vos terrains de recherche. Vous êtes philosophe et critique d'art, directeur d'études à l'EHESS, auteur de nombreux livres sur la lecture, sur les paysages. Vous avez consacré plusieurs expositions aux forêts, aux jardins, à l'environnement, notamment dans les Amériques latines. En 2014, vous avez édité et commenté le voyage pittoresque et historique au Brésil de Jean-Baptiste Debray en un superbe et volumineux ouvrage publié par l'Imprimerie Nationale et dans le Brésil illustré. L'héritage postcolonial de Jean-Baptiste Delzan, qui est le catalogue de l'exposition qu'on peut encore voir et dont nous parlons, un livre bien plus accessible et qui vient de paraître chez Actes Sud. Vous mettez en regard ces images avec, on l'a dit, celles d'artistes contemporains. En fait, vous vous intéressez au paradis perdu.
Peut-être pas au paradis perdu, mais à la manière dont l'idée de paradis perdu résonne dans notre culture aujourd'hui. Moi, le paradis perdu, c'est un concept qui, à travers l'œuvre de Debré, immédiatement s'est trouvé transformé et problématisé.
Et on va voir que l'exotisme, c'est pas du tout le problème.
Voilà, c'est pas ma tasse de thé.
Bonjour Livia Melzi.
Bonjour.
Vous êtes l'une de ces artistes brésiliennes, justement, exposées à la Maison de l'Amérique latine, océanographe de formation, photographe. Vous avez donné une formidable exposition au Palais de Tokyo, c'était en 2022, je crois, « Toupie or not Toupie », alors c'est vraiment le meilleur titre qu'on puisse imaginer, un titre qui cannibalise d'ailleurs la formule de Shakespeare depuis une enquête visuelle et politique sur les tissus tupinamba, ces grands manteaux de plumes, et avec vos photos, en fait, vous continuez à faire des montages, des installations, des confrontations. Ainsi, on va en parler dans votre vidéo hein, qui fait partie de l'exposition « Après Debré », après ou d'après lui, mais en fait toujours un peu avec lui.
Toujours avec lui, depuis mon enfance.
Et oui, c'est ça, parce que vous avez grandi avec Debré, c'est ça qui est intéressant, le contraste entre son la modestie de sa célébrité en France et sa postérité au Brésil est étonnant.
Oui, 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 c'est très étonnant. Moi, je fais partie de cette génération post. Je suis née en 85. C'était la dernière année de la dictature, donc j'ai pris toute une nouvelle éducation nationale et j'ai grandi comme beaucoup de gens en regardant les images de Debré dans les livres d'histoire, de géographie.
C'est-à-dire, c'est l'illustration ordinaire du récit national brésilien, c'est ça?
C'est les images qu'à l'époque on avait et que je pense qu'il y en a encore, qui nous racontaient. Qui nous sommes, comment il était le Brésil à l'époque, et le territoire, le paysage et ses gens.
Le territoire et le paysage, alors on y va justement, Jacqueline Hart, on y va, on regarde peut-être la première image de ce livre, qui en comporte beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit?
Alors, la première image...
C'est une carte, il y a d'abord une carte. Hein.
Alors, il y a une carte, donc on entre dans la géographie, puis ensuite on va l'illustrer par une image de ce que Debré appelle la forêt vierge, bord du Paraíba, c'est-à-dire un endroit précis au bord d'un fleuve.
Et qu'est-ce qu'on voit?
Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit la... On voit... Patrick Boucheron vient d'essayer de me donner l'image comme si je ne la connaissais pas par cœur.
Il a vraiment une main dédaigneuse, vous l'avez rejetée. Alors on ferme les yeux.
On ferme les yeux, on se concentre sur l'image. Et on se concentre sur l'image où on voit une forêt assez troublée, des arbres, des troncs dans divers sens, et des personnages qu'on distingue assez mal en haut, à droite, sur un tronc qui essaye donc de traverser cette rivière. Mais évidemment, cette image, je ne peux pas la décrire simplement comme ça, sans rappeler que Debré, lorsqu'il la conçoit, il a devant les yeux une autre image.
Oui.
Il a une autre image, il a l'image qui circulait depuis les années 1820 à travers toute l'Europe, Darwin en parle, elle arrive au Brésil, et cette image, c'est une image faite par un autre artiste français, Clarac, qui l'expose en 1819 au Salon, et qui a un tel succès parce que c'est précisément une image exotique,
oui,
romantique, qui
là pour le coup c'est la carte postale du Brésil. C'est la carte postale du Brésil, mais d'ailleurs il faut dire Livia Melzi d'emblée que cette image de toute façon, elle porte bien mal son nom parce que la forêt vierge n'est pas vierge. D'ailleurs, c'est à peine une forêt, c'est un sous-bois et puis on voit qu'il est sous de toute façon le pinceau de Bré densément peuplé. Comme l'Amazonie brésilienne, de toute façon, on le sait aujourd'hui.
Oui, 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 c'est une image qui fait beaucoup partie de... Je pense que toutes les artistes, la plupart des artistes brésiliens qui travaillent avec l'image ou qui pensent l'image, passent par cette image à un moment ou l'autre. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert l'image faite par Debré avec Jacques. C'est lui qui m'a raconté les histoires derrière cette image que j'ai connaissée. Évidemment, elle était dans ma tête depuis très longtemps. Mais les détails et tout la représentation qu'il a fait et les questions politiques qu'il met de façon très subtile en changeant des détails, j'ai trouvé assez impressionnant et très cohérente pour l'exposition.
Alors, on va en parler, mais avant cela, Jacqueline Hart, quand même, un dernier mot de cadrage. Donc, on l'a dit, c'est un artiste français qui part en 1815, qui est exilé, jacobin, qui reviendra en 1834. À ce moment-là, il a deux ateliers, dites-vous. Il a un atelier de cour, il peint pour les puissants du Brésil, et secrètement, un atelier de rue où il va donner d'autres représentations. La Forêt Vierge, c'est pas un voyageur, c'est un exilé. La Forêt Vierge, il l'a jamais vue.
La Forêt Vierge, il ne l'a jamais vue. Il a vu, comme tout le monde, des représentations. Et c'est à partir de ces représentations qu'il va lui-même construire cette image. Il faut rappeler que ce livre comporte trois parties. Voilà. Il y a trois tomes. Un premier consacré aux Amérindiens, les indigènes, le deuxième à la vie quotidienne à Rio de Janeiro, c'est-à-dire fondamentalement la vie des esclaves, puisque cette ville comprend une population qui est fondamentalement celle qu'on rencontre dans la rue, justement, et qui constitue l'atelier de la rue. C'est une population d'esclaves, ou d'Africains, en tout cas, éventuellement libres. Et le troisième tome, c'est la ville, la cour, et donc le peu de choses qu'il dit de la bourgeoisie et de la cour, du roi, et ensuite de l'empereur.
Et on retrouve les trois composantes de la nation brésilienne, telles que Gilberto
Freire. Et c'est l'idée même de Debré de faire un livre où il pose la question de comment faire une nation avec des Amérindiens qu'on a chassés au fond des forêts, des esclaves africains qu'on exploite, et des émigrés européens de différentes souches.
D'où la nécessité de comprendre à quoi répond cette image et de passer derrière la carte postale. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on entend carte postale. Vous savez bien que dans cette émission, c'est Mathieu Pote-Bonneville, directeur du département culture et création de Beaubourg, qui nous en envoie. Là, elle arrive très vite, elle est déjà là.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, ce sont deux couvertures de livres. L'une éclate de rire, l'autre ne pleure pas. Celle qui ne pleure pas, c'est l'image d'un jeune homme dont le regard fixe droit l'objectif, de part et d'autre de la ligne verticale que la longue fibre de bambou fichée dans sa lèvre supérieure trace en remontant le long de l'arête du nez, divisant son visage en deux parties égales et croisant au passage cette tige plus courte qui transperce sa cloison nasale. Il ne pleure pas, mais c'est tout comme. Dans le mélange impénétrable de fierté et d'abandon, de défi et d'indifférence qui se peint sur les traits de ce jeune homme Nambikwara, nous peinons à ne pas lire l'infinie mélancolie du titre qui barre la couverture du livre où il figure, Triste Tropique, dans l'édition de poche de la collection Terre Humaine. Il est presque trop beau pour être vrai, ce jeune homme. Si parfaitement ajusté à cette sorte d'oxymore forgé par Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, qu'on en viendrait à se méfier de la manière dont les mots déteignent sur les visages et orientent la lecture des photographies. Surtout, on se demande ce que cette tristesse se doit au médium photographique, à ce portrait en noir et blanc pris sur le vif qui, dans sa matérialité, dit à la fois l'instant et sa disparition, le présent refermé sur son éclosion même, le regard replié sur la certitude de la perte, regard d'avance écartelé dans cet entretemps qui sépare le déclenchement de l'obturateur du développement des négatifs. Cette anticipation endeuillée, c'est, dans le texte, le ton même de Triste Tropique, je cite, « Dans quelques centaines d'années, en ce même lieu, un autre voyageur aussi désespéré que moi pleurera la disparition de ce que j'aurais pu voir et qui m'a échappé. Victime d'une double infirmité, tout ce que j'aperçois me blesse et je me reproche sans relâche de ne pas regarder assez. » Fin de citation. Si Lévi-Strauss, qui prit tant de photographies au Brésil, en fait dans Triste Tropique un usage si parcimonieux, c'est peut-être que l'écriture lui tient lieu de pellicule, dans la structure d'après-coup qu'elle adopte, dans la douleur qui la traverse de scruter un monde sur le tard. Or, voilà qu'il y a un après-coup à cet après-coup. En 1994, soit 40 ans après Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss publie Saudades do Brasil aux éditions Plomb. Bon, l'édition que je possède, moi, je l'ai chipée chez un bouquiniste de Rio sous le nez de l'historien Philippe Artière, mais n'allez pas lui répéter. Dans Saudades do Brasil, les photographies que Lévi-Strauss disait pourtant ne pas aimer occupent tout l'espace. Elles viennent cette fois en nombre, 177 au total. Tant de visages et tant de corps par lesquels on dirait qu'il accepte de se laisser déborder. Dans cet autre livre, la vivacité des postures, des gestes, des sourires attrapés au vol chez les Nambiquara démultiplie bien sûr le sentiment poignant d'une expérience révolue. Puis cette salve de clichés interroge aussi la liberté que s'arroge l'anthropologue de voir et de faire voir. Mais c'est autre chose qu'on ressent. Une insistance, plutôt qu'une innocence, une puissance collective de persévérer que la violence coloniale se chargera d'abîmer, mais où pour l'heure ne se lit aucune forme de résignation. Non pas l'instant transi par l'étreinte mortelle de la photographie, mais une secousse que les images prolongent jusqu'à nous, démentant la clôture de l'histoire. Voyez comme ce couple qui s'étreint vous trouble, comme cet enfant qui dort vous réveille. Sur la couverture, un gosse rit. Et le grand rire qui le parcourt plisse son nez percé d'une plume en gloire. Ce n'est pas que ce rire depuis longtemps éteint soit moins triste, Patrick, mais il ne vous laisse pas le pleurer tranquille.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Des visages derrière les paysages et des images derrière les images. Voilà, c'est ce que vous voulez nous dire, Jacqueline Hart, à partir de cette première image de Debré, qui est pittoresque et historique. Et c'est le « et historique » qui est important, et parce que justement, derrière la carte postale, il y en a une autre auquel il répond.
Oui, parce que cette image qui circulait à l'époque, image romantique, image exotique de la forêt vierge, elle reproduit un bon sauvage qu'on voit
chez Chateaubriand, en fait.
Oui, il y a Chateaubriand, il y a Fénelon, il y a toute une série d'auteurs. Et Clarac, lorsqu'il peint cette forêt avec sur un tronc un bororo suivi de sa femme tenant son enfant et son petit chien, il peint cette tranquillité du bon sauvage dans sa grande et belle forêt somptueuse comme une cathédrale.
Mais pas Debré, parce que là, si on s'approche...
Mais Debré, voilà, quand il voit ça,
autre chose.
Et quand il voit cette image qui circule et qu'il pense à l'image qu'il va faire, lui... Il dit non, c'est pas ça. Et il va historiser justement cette forêt. Et il va la faire aller bien au-delà de cette imagerie romantique.
C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit ?
Alors on voit sur le tronc trois soldats qui tiennent enchaînés deux femmes qui elles-mêmes traînent leurs enfants. Et comme Debré fait toujours un commentaire de chacune de ces images, il nous précise bien, les maris ont été tués par les soldats qui ont incendié le village et ils emmènent seulement les femmes et les enfants en esclavage. Voilà la vérité de la forêt.
Et c'est pour cela qu'effectivement, la vérité de la forêt, elle est donnée à voir par Debré, par volonté d'exactitude et aussi d'ambiguïté. Parce que finalement, Livia Melzi, qui est civilisé, qui est sauvage ? Ce sont les soldats civilisés qui ont, d'une certaine manière, se sont montrés sauvages. Et ça, c'est toute l'histoire, au fond, coloniale du Brésil.
Oui, oui, oui. Et ça, il parlait déjà dans cette, avec ces gestes qui après on va qui est très contemporain finalement. Oui. Quand on parle, on va parler après j'imagine, mais quand on parle de gestes artistiques devant l'œuvre de Debré, les droits de réponse, c'est un peu une répétition, une mise en abîme de tout ce que Debré avait déjà fait avec cette image, de corriger quelque chose.
C'est ça, droit de réponse, et pour répondre, il faut s'approcher, car quelques pages plus loin, enfin une trentaine de pages plus loin, Debré s'approche, c'est-à-dire on est encore plus près, et il zoome, on peut dire, et là on a une autre image où on voit ses prisonniers nus et ses soldats supposément civilisés.
Et oui, ce qui est très intéressant, c'est que cette première image, d'abord, elle ouvre le livre, donc c'est une espèce de code de lecture qu'il nous propose à l'ouverture de son livre. Lisez le Brésil à travers cette tradition, si je puis dire, de la violence. Et pour qu'elle ne vous échappe pas sur mon image, je vous refais 15 pages après un gros plan où on voit cette fois clairement les chaînes qui tiennent les femmes à leurs soldats qui les escortent, la volaille qui a été volée dans le village dont on a tué les hommes, etc. C'est-à-dire que il y a une volonté démonstrative, une volonté politique. Et vous avez raison, Patrick, d'insister sur le mot historique. C'est-à-dire que dans cet univers de nature, Debré pose clairement la présence de l'histoire et comme un code de lecture pour tout ce qu'il va nous montrer.
Il pose des mots parce que ce livre est un livre écrit également et son écriture est parfois explicite, parfois ironique. Il y a, dites-vous, de la physiologie de Balzac également sous sa plume. Mais ce qui m'intéresse, Livia Melzi, également dans cette mise en série des images, c'est que justement elle permet au fond par l'art contemporain, c'est l'art contemporain qui va au fond exprimer le mieux cette ambiguïté. Vous intervenez dans cette exposition, il y a une vidéo, on va en écouter quelques extraits. Qu'on entend, c'est quoi ce cliquetis, Livia Melzi? Qu'est-ce qu'on voit à l'image?
On voit une autre carte postale du Brésil, sonore, oui. Les Andes galantes, mais on entend la machine de microfilm de la BNF à Paris, en train de passer le microfilm
du voyage
pittoresque et historique au Brésil.
Parce que c'est comme ça, en fait, que vous l'avez lu à Paris, à la BNF.
Oui, j'ai découvert en 2016... pendant mon master à Paris 8 en photographie. Et j'étais complètement émerveillée, on dit, devant cette... J'ai vu le microfilm avant et après j'ai pu voir l'original qui est conservé à la BNF. Et j'étais complètement émerveillée devant les originaux et pas les reproductions que j'étais habituée pendant mon enfance dans les livres d'histoire.
C'est à ce moment-là que vous vous êtes rencontrée d'ailleurs, Jacqueline Hartz, sur la question de la photographie, c'est ça?
Bon, c'est sur la question de cette transitivité des images qui passent d'un support à un autre pour arriver jusqu'à nous. Et ce qui est très intéressant dans le travail de Livia, c'est qu'elle insiste et elle rend sensible aux spectateurs dans l'exposition le fait que ces images, elles nous arrivent sur un support. Mmh. Alors elle, ça a été le support du microfilm et de la microfiche. Debré, il s'est confronté à une image qui était sur un support graphique et d'autres d'ailleurs, puisqu'il n'a pas voyagé lui-même, mais il a lu des voyageurs. Et donc, les images, elles viennent toujours à travers une solution technique. Oui. Qui leur donne une manière de nous atteindre.
Pour Debré, évidemment, l'histoire de Debré, elle est indissociable de celle technique de la lithographie, etc. Mais évidemment, Livia Melzi, ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, c'est que, comme Mathieu Pot-Bonneville le disait à propos de Claude Lévi-Strauss, pour Debré aussi, il y a le sentiment qu'on documente là un monde qui va à sa perte. Et d'une certaine manière, ça fait partie aussi, ce deuil anticipé, ça fait partie de votre travail d'artiste, parce que au fond, avec ces microfilms, on voit sauver un manuscrit qui peut être détruit, et qui l'a été d'ailleurs lors de l'incendie du Musée National de Rio.
Oui, oui, oui. Ouais, il y a quelque chose de, il y a une nostalgie de futur peut-être. Il y a quelque chose de, ben, il y a l'archive, c'est tout. C'est ça le microfilm quand on voit le support, la machine, le bruit, les mains qui vont manipuler cet objet. Je pense qu'on pense aussi au futur de ces images et à la fragilité et au volume de ces images. C'est ça que j'avais beaucoup en tête pour faire cette vidéo. Comment, en fait, pendant toute ma vie, j'ai vu ces images dérouler de façon très rapide devant moi.
Sans les voir.
Sans vraiment le voir, ouais.
Et pour les voir, il faut
faire un arrêt sur image.
Un arrêt sur image.
Exactement. Et mais ce qui est intéressant dans cette présence à la fois de la disparition des images et de la disparition des Indiens, c'est que c'est une thématique aussi d'époque. Lévi-Strauss, il est dans une époque où tout le monde est certain que demain il y aura plus d'Indiens. Et donc il est particulièrement sensible à cette disparition. Aujourd'hui, démographiquement, les choses ont changé. Et les populations indiennes recommencent à croître. Et donc il y a quelque chose de très intéressant dans cette actualité des populations indiennes qui, cette fois, prennent elles-mêmes en charge, parce qu'elles sont toujours là et de nouveau là, elles prennent en charge les images d'elles-mêmes à travers les nouveaux médias, la vidéo ou les collages, comme dans l'exposition.
Je suis brésilien, j'ai mes dorés, j'arrive de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, la guerre, la guerre, Paris, je te remis en la guerre. Deux fois, je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise. Derrière ma chemise, comme il y a du retour, c'est là. Le temps d'avoir des cent amis, et de mes quatre, cinq maîtresses, six mois de galantes ivresses. Et puis, rien au Paris, Paris, en six mois, tu m'as tout raflé. Et puis, vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre mélancolique, délicate, m'a ravaillé. Mais j'ai brûlé de rêver. Là-bas, sous mon ciel sauvage, je me remettais avec grâce une autre fortune ou mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné ta vie en tes mal de sol et fort. Et j'ai bien pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Je suis brésilien, j'ai de l'or, et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, 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 je te reviens en mer. Hurra, 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 je viens de débarquer.
C'est ça, Rolando Villason et l'Orchestre National de Lille en 2017, l'air de la vie parisienne d'Offenbach 1866. Je suis brésilien, ça vous a étonné, vous connaissiez pas Livia Melzi?
Non, je ne connaissais pas.
Vous voyez, il y a
c'est
des...
Magnifique.
Magnifique, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais enfin en tout cas intéressant du point de vue historique, parce que ça donne à entendre finalement cette histoire croisée entre le Brésil et la France. Il y a une histoire brésilienne de la France, mais il y a aussi une histoire française du Brésil. C'est ce qui est donné à voir un peu dans les images qu'on commente.
Oui. Dans mon travail aussi, j'essaye de croiser ces deux univers que je découvre petit à petit, autant qu'immigrée brésilienne à Paris et Montenegro-Arles. Mais oui, ça m'intéresse aussi beaucoup. Comment chaque pays se regarde et comment on s'est construit de façon...
En miroir.
En se croisant avec... Ouais, en miroir.
Ordre et progrès, d'une certaine manière, alors c'est la devise en français encore aujourd'hui, empruntée à Auguste Comte du Brésil. d'une certaine manière, comme homme des Lumières, Debray devance ce slogan, Jacqueline Hart.
Il devance en tout cas les préoccupations fondamentales de la construction de la nation. Alors, l'ordre et le progrès, bien sûr, sont les conditions que les positivistes, qu'Auguste Comte donnait à la, au développement de, d'un pays. Mais ce qui est intéressant dans le livre de Debray, c'est que, et dans son regard en réalité, parce qu'il y a bien un regard français sur ce qui se passe au Brésil. Les Brésiliens, à l'époque, ne sont pas encore exactement au clair sur comment ils vont réunir ces différentes parties de la population. Debray voit tout de suite que c'est là le problème. Et que dans son livre, il essaye de montrer que finalement, il y a une grande image à cet égard qui est très intéressante, montrer que l'ensemble de cette diversité peut concourir à un mouvement de progrès général pour la nation.
Vous l'avez dit, Olivia Melzi, au Brésil, lorsque vous étiez jeune, c'était avec des images de Debray que, d'une certaine manière, vous vous êtes fait l'œil, et aussi peut-être la conscience politique. On en parlait à ce moment-là du fait que c'est quand même singulier de voir, de s'imaginer par le regard d'un étranger, nation nouvelle.
Oui, mais ça n'avait pas cette information à l'époque.
Oui. Ah oui.
C'est ça que c'est intéressant aujourd'hui. J'ai l'impression que les images sont, la lecture des images de Debray sont, elles sont beaucoup plus sophistiquées, évidemment. À mon époque, il y avait un statut très documentaire, illustratif de textes, d'histoire. Donc c'était vraiment la vérité ou une vérité illustrée par les dessins de Debray.
Alors il y a eu un moment évidemment documentaire où on pensait voir le Brésil tel qu'il est. Il y a eu un moment idéologique où on pouvait contester évidemment cette visée coloniale. Et puis aujourd'hui, on cherche non seulement à comprendre l'ambivalence des images, mais aussi leur puissance d'actualisation. Pour la comprendre, je vous propose d'écouter un témoignage étonnant, c'est celui de François Bess. On était au micro de France Culture en 2021.
Lors d'un colloque, il y a une personne qui me demande si j'ai lu des livres écrits par Debray qui parlent de l'esclavage au Brésil. Et elle me dit, ça pourrait vous intéresser de lire ce livre. Donc je prends note et j'achète les deux volumes et je lis la première partie sur l'esclavage, la liberté, ce que les Portugais avaient pu faire à cette époque-là d'une façon bien. Et dans le deuxième volume, je tombe sur une image qui, elle, me transporte véritablement.
Fait ressortir le souvenir, le trauma.
Voilà. Tout le trauma est dans cette image. Dans cette image, il y a un esclave qui est exactement dans la même position que moi, avec le bâton qui est derrière ses genoux, qui bloque ses bras. Et son histoire, c'est l'évasion.
Il s'est évadé, il est puni.
Il s'est évadé, il va être puni et peut-être exécuté. Il sera peut-être pendu. Et je dis, mais c'est pas possible, ça. Et à cet instant-là, tout se déroule. Je peux écrire sans avoir à subir. C'est-à-dire que c'est une libération. Et c'est aussi un témoignage, quelque chose qui fait que je peux vous dire que ça a existé.
François Bess, ancien truand, on l'appelait le roi de la cavale, il s'y reconnaît. C'est la question de la reconnaissance, au-delà même de l'imaginaire national, c'est la question de la reconnaissance, Olivia Melzi. Vous travaillez beaucoup sur cet enjeu, qui est un enjeu visuel et politique, et toute l'exposition dont on parle, le Brésil illustré, l'héritage post-colonial de Jean-Baptiste Debray, ben justement, tente de, vous avez dit, des droits de réponse. J'ai bien aimé cette expression. À Debré, vous, vous êtes arrivé à la fin. Vous êtes effectivement la tare venue de l'exposition. Vous avez pu voir tout ce que les autres avaient fait. Quel est votre regard sur cette, ces différentes réappropriations, parfois assez frontales, hein. Je parlais de cannibalisme ou d'anthropophagie. Qu'est-ce qui vous a frappé l'œil?
Ouais, je connaissais déjà la plupart de, des artistes choisis par Jacques, qui sont en dialogue dans l'expo. Et ouais, c'est assez compliqué parce que le fait que Debré a documenté, dessiné la vie de ces différents types de sociales et des personnes, comment les blancs, les esclaves, les africains et les indigènes, comment cette triangulation s'est donnée, je pense qu'aujourd'hui ouvre, c'est une invitation à presque tout le monde, toutes les parties, toutes ces races, c'est pas les races, c'est pas le mot, mais toutes ces gens du Brésil s'y reconnaissent finalement.
Oui.
Donc moi, je suis une femme blanche, je suis plutôt descendante des colons, et je suis en dialogue à côté de Denis Sombani, qui est plutôt un indigène, et qui va poser son regard en tant qu'indigène pour corriger, pour répondre au dessin de Debré, mais aussi Jaime Laureano, qui est un artiste noir, qui va avoir un autre regard. Donc je pense que c'est ça, je me demande si Debré n'avait pas presque fait exprès de laisser une œuvre ouverte, parce qu'on a tellement de portes d'entrée, et c'est ça qui est vraiment génial pour un artiste aujourd'hui, de se réapproprier de quelque chose qui est très ouverte.
Il y a d'ailleurs une ambiguïté très très intéressante. Il y a un dessin que Denis Sombani reprend qui s'appelle l'anthropologue.
Oui.
Et l'anthropologue, bon, on voit un savant européen avec ses lunettes en train de compulser ses notes, etc. Et Denis Sombani, pour carnavaliser cette image, place en face de lui un noir ou un indigène qui le regarde.
Oui.
Donc c'est le regardeur regardé, et c'est cette inversion des regards qui est intéressante. Mais dans l'image de Debré, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'au lieu d'être à sa table de travail, le savant européen, il est sur un hamac.
Oui, donc il est déjà dans une position instable.
Donc il est dans une position instable, il est assis finalement sur une caractéristique culturelle résolument indienne, enfin amérindienne. Et donc il y a chez Debré très souvent des espèces de décalages comme ça à l'intérieur de l'image qui font que ces images sont plus riches, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles intéressent davantage les artistes contemporains qui s'en ressaisissent.
Oui, les artistes s'en ressaisissent précisément pour faire jouer l'ambiguïté qui est au fond déjà là chez Debré. En fait, c'est ça, c'est ce que vous avez aussi voulu dire, Livia Melzi, c'est-à-dire que au-delà effectivement de la critique postcoloniale, il y a ce désir d'aller chercher l'ambivalence au cœur même de l'image.
Oui, et de la société aussi.
De la société.
Quand j'entends le Gilberto Freire qui parle de, je ne sais pas le mot qu'il a utilisé, mais quelque chose de, une paix entre toutes les races au Brésil, c'est très étonnant. Parce que c'est ça la grande question encore aujourd'hui, c'est que c'est très problématique. Les différences, oui, entre les blancs, les noirs, les indigènes, il y a beaucoup, plusieurs Brésils dans le Brésil.
Parce que évidemment, Jacqueline Hart, vous rappeliez les trois parties du livre de Debré. La deuxième sur les métiers, en fait, est un, donne à voir des noirs, des esclaves d'origine africaine. Et c'est évidemment ces images-là qu'on regarde surtout aujourd'hui, et ce sont ces images-là auxquelles répondent surtout aujourd'hui les artistes contemporains que vous avez exposés.
Oui, parce que Debré, en fait, en donnant pleine page, une présence, même une prestance,
oui,
à ces travailleurs, leur donne une visibilité que, évidemment, dans le monde esclavagiste, ils n'avaient pas. Hein, on ne les voyait même pas.
Et c'est pour ça que personne n'a voulu les voir.
Et c'est pour ça
ni
que
au Brésil,
siècle,
ni en France.
Voilà, on n'a pas voulu les voir parce que c'était désagréable. Ça rappelait un système violent, un système que personne n'était capable véritablement éthiquement de défendre. Mais Debré, lui, les met en pleine page et leur donne une existence. Ce qui, évidemment, justifie aujourd'hui le fait qu'on s'intéresse à son livre.
Hector Villa-Lobos, 1938, lui aussi, grande figure presque ethnologique, puisque sa musique, il la compose avec les traditions populaires brésiliennes. Bonjour Hortense Bellotte.
Bonjour Patrick.
Vous revoilà.
Oh oui, et le travail de Livia et le livre publié de Debré m'ont fait penser à un ouvrage que j'avais dans ma bibliothèque. Comme j'ai passé mon été à ranger ma bibliothèque, je suis retombée dessus. Qui s'appelle Féchamos, qui est une BD réalisée par des Français, Gilles Baum, Régis Lejon, et qui part de ce moment un petit peu clé dans la muséographie brésilienne de l'incendie du musée de Rio de Janeiro, que vous utilisez aussi, Livia, comme point de départ d'une de vos œuvres, et qui raconte comme ça cette histoire un petit peu fantasmée de ce vieux gardien de musée qui décide de fermer le musée, de donner toutes les œuvres à la population, puis de sortir son jerrycan, d'allumer une allumette et de tout faire brûler. Et cette espèce de relecture un petit peu en histoire contrefactuelle de l'événement qui était tragique et traumatique devient une sorte de grande fête où, au moment où le musée ferme, eh bien c'est le vieux monde et l'obsolescence programmée de cette institution coloniale dans ses origines qui se ferme pour en ouvrir un nouveau, très joyeux. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette figure de style où on a à la fois une véritable histoire et une fausse.
C'est une question, c'est une vraie question.
Ouais, c'est une vraie question. Alors, il y a un truc un peu d'oxymore de c'est la fin et c'est le début, tout en sachant que c'est pas vrai.
Oui.
C'est très curieux ce qui se passe quand on lit cette petite BD et je me suis servi un peu de ça pour comprendre des œuvres d'artistes brésiliens ou franco-brésiliens que j'ai vues cette année grâce à une programmation un peu de l'année du Brésil.
Ah oui, il faut le dire aussi que là on achève l'année France-Brésil.
Effectivement, et pour notre plus grand plaisir. Et je me suis rendu compte que cette manière un peu de raconter quelque chose d'extrêmement positif et de ce recours à la fiction, presque au fantasme, assumé comme tel, était assez récurrent dans certaines œuvres d'artistes brésiliens. D'abord parce que ça permet une sorte d'empouvoirment, un petit peu comme ce coach de tennis qui conseillait à son champion de rejouer le point perdu dans sa tête comme s'il l'avait gagné, afin d'aborder le point suivant avec la puissance du vainqueur. Et puis, c'est aussi une manière de créer des images qui permettent d'être à la fois heureux et malheureux en même temps. Et cette espèce d'en même temps, qui va bien au-delà de la saudade et qui est peut-être de la nostalgie du futur, comme vous avez dit tout à l'heure, Livia, et qui permet de faire coexister une image à la fois très positive et une violence en creux, qu'on ne représente pas, soit parce qu'elle est irreprésentable, parce qu'elle est trop violente, soit parce qu'elle n'est pas documentée. Et cette violence non documentée, qui est aussi un peu en creux dans les ouvrages de Debré, ou parfois documenté avec cette image de l'esclave attaché. C'est un peu ce qu'on a pu retrouver à Arles cet été, pour celles et ceux qui ont vu cette expo.
C'est une question, encore une fois.
Oui, c'est une question. Oui. Bah voilà, ah, non,
moi, je l'avais vu à Barcelone avant, si vous voulez.
Et donc, alors, si vous vous souvenez, les futurs ancestraux, il y avait une douzaine d'artistes qui réinvestissait le passé d'une manière ou d'une autre, et notamment on avait l'album inoubliable de Mayara Ferrau qui est recréé par intelligence artificielle des archives manquantes de mariages homosexuels et de joie afro-queer. Et toute la jubilation qu'on pouvait avoir face à ces images coexistait avec le fait de déplorer leur absence dans le corpus réel des archives du pays et puis dans les mémoires des gens, évidemment. Le titre de l'exposition, lui, faisait référence au livre d'Elton Krenak, philosophe et activiste indigène, et qui propose justement une sorte d'articulation du temps, un peu différente du temps chronologique tel qu'il a été imposé par la colonisation et l'européanocentrisme, et qui va opposer à la chronologie quelque chose d'un peu plus compressé, voire comprimé.
Elton Krenak, qui avait d'ailleurs été invité par Philippe Descola au Collège de France l'année dernière, et vous pouvez écouter sa conférence, ça vaut la peine.
Et est-ce que vous êtes allé cet été au Théâtre du Châtelet ? Il y avait aussi...
C'est une vraie question ?
Des grands événements. C'est une vraie question !
La réponse est non.
Non, moi non plus.
Alors, vous avez loupé ce one-shot de Ligiana Costa, metteuse en scène d'opéra, qui vit et travaille à São Paulo et qui mettait en scène les Marias do Brasil, qui était une sorte de récital documentaire où elle rendait hommage à Joaquina Lapinha, première chanteuse lyrique noire au XVIIIe siècle, qui a aussi fait des concerts à Lisbonne, et à Maria da Aparecida, mezzo-soprano du XXe siècle, qui a vécu et qui est morte d'ailleurs à Paris en 2017, il n'y a pas si longtemps. Et entre mémoire et imagination, elle faisait prendre voix ces figures-là par la soprano Luanda Siqueira et le sopraniste Bruno de Sá, désormais star internationale du lyrisme queer par essence, puisqu'il s'agissait de donner voix, une voix d'outre-tombe par un homme sopraniste à une soprano ancienne. Et cette question de comment on fait entendre des sons qu'on n'entend plus ou qu'on ne peut pas entendre, c'est ce qui fera aussi l'objet de la prochaine création du chorégraphe Calixto Neto, qui va créer bientôt là pour le Festival d'automne et que vous pourrez ensuite aller voir à la MC93 en novembre, une pièce qui s'appelle Bruit marron. Alors Bruit marron, qui rend hommage à Julius Eastman, un musicien états-unien noir et homosexuel, incompris, et mort lui aussi dans l'oubli et le dénuement, comme pas mal d'artistes afrodescendants, en 1990. Et ce titre, Bruit blanc, renvoie certainement au silence radiophonique, que l'on essaye d'éviter à tout prix. C'est pour ça que je parle très rapidement. Mais qui rappelle évidemment aussi la couleur de la culture et qu'elle couleur à la primauté dans l'héritage. Et ce bruit marron nous fait penser à nous, Français, évidemment, au mot de l'esclave marron et aux ces pratiques de marronnage d'un esclave auto-affranchi, mais qui peut rappeler aussi, peut-être, quand on est plus au fait de culture brésilienne, au terme pardo, qui est aujourd'hui encore utilisé dans les statistiques et dans le recensement officiel du Brésil pour qualifier l'afrodescendance, quelle qu'elle soit, et qui est au cœur du travail de Calixto Neto assez souvent, et qui vient mettre l'accent sur cette petite gêne qu'on a souvent quand on aborde l'histoire de la société du Brésil, et cette espèce de discours utopique qui présente la fiction première du métissage bienveillant qu'on a évoqué déjà depuis le début, et qui présenterait le pays comme une sorte de grande famille mixte, pour reprendre le titre de l'ouvrage traduit, lui, de Lia Weiner-Schuckmann, et qui est bien plus dysfonctionnel qu'il n'y paraît en réalité, car le mythe de la démocratie raciale a longtemps été un outil de silenciation et largement promu par la dictature militaire et les fameuses années de plomb. Et à la fin des années 80, au moment de votre naissance, Livia, comme vous le disiez, et puis au moment de la redémocratisation du pays, eh bien, pas mal de gens sont venus interroger ce processus de silenciation, et notamment Lélia González, philosophe, autrice et militante afro-latino-féministe, qui a imposé une réflexion autour de l'effacement volontaire, et la vision en creux qui permet de pointer le racisme comme une science sociale implicite de la société, héritée de ces années du 19e et de ce point de vue occidental. Et je vous laisse donc, pour ne pas continuer à perpétuer ce bruit blanc, avec la voix de Maria d'Aparecida, qui nous chante l'immortalité de l'amour et sa douleur, tout aussi immortelle, en même temps.
Meu nome é Maria d'Aparecida, eu sou cantora brasileira. E tive o grande prazer de cantar recentemente na Ópera de Paris, Carmen de Bizet. Mas esta noite eu estou aqui entre vocês para cantar uma melodia do meu Brasil, de Valdemar Henrique, Tambatajá. Tambatajá me faz feliz, que o meu amor me queira bem, que o seu amor seja só meu de mais ninguém, que seja meu todinho, meu de mais ninguém. Tambatajá me faz feliz. Assim o índio carregou sua macuxi para o roçado, para a guerra, para a morte. Assim carregue o nosso amor a boa sorte.
Livia Melzi, la voix des absents, évidemment, c'est tout l'enjeu pour votre travail aussi de reprise, de réponse, de relance de ce dont on parle, c'est-à-dire ce moment d'Aubray de l'imaginaire brésilien.
Oui, merci Hortense pour toutes ces références. Très, très bel choix. Oui, il y a... c'est vrai que je pense qu'un des grands traumas brésiliens, c'est l'effacement de passé pour toute cette communauté afro-descendante qui n'ont pas de documents, qui ne sait pas d'où ils viennent. Et on parlait tout à l'heure avec Jacques, c'est vrai que le travail de Debré, le fait d'avoir dessiné, documenté l'existence de cette population, la façon de qu'ils vivaient, les conditions qu'ils vivaient, ça devient, j'ai l'impression que ça devient aujourd'hui le seul support d'un passé, de plein de gens, de plein d'artistes pour penser ses origines et pour répondre encore une fois à leurs angoisses de vie, leurs traumas générationnels. Oui,
cette question de la disparition et de remplir ce vide, ce qui était très intéressant dans la chronique, c'était que, au fond, ce geste qui consiste à mettre du bonheur, du calme, là où il y a du drame, de l'oubli, de la violence, on le retrouve dans l'exposition, en particulier à travers l'œuvre de Gévian. Oui. Gévian retourne complètement des situations, le pilori par exemple, où on voit un esclave fouetté, elle en fait une corne d'abondance et une cérémonie.
Violence sexuelle aussi.
Voilà, et donc il y a dans cette volonté de retournement créer une autre perspective, non seulement sur l'histoire passée, mais finalement d'imaginer un futur. Hein. Et c'est là où ce télescopage des temporalités qui est au cœur de l'exposition est au cœur donc du travail de tous les artistes contemporains c'est un travail sur l'image, mais c'est un travail sur la temporalité.
Oui, sur cette temporalité et sur cette qui est happée par le présent, qui est cannibalisée par le présent. Et peut-être qu'on peut d'ailleurs terminer notre voyage dans les images. On a zoomé progressivement sur cette forêt vierge, on a vu ces soldats supposément civilisés prendre en prisonnier ces femmes et ces enfants nus. Et ben la dernière image c'est celle s'appelle King Kong, hein. C'est celle effectivement d'un Léviathan moderne qui va d'une certaine manière faire disparaître tout ce monde.
Oui, il y a une angoisse de la fin d'une civilisation qui a beaucoup de peine à se penser, parce que encore une des choses qui a été dite, on est parti sur Gilberto Freire qui avait un optimisme du métissage, et puis on a dit attention, il y a là soit des dérives qui ont été pendant la période de la dictature, des dérives violentes. Et au fond, tout ce travail des artistes contemporains, c'est non seulement de récupérer des images de soi, se faire une image de comment aujourd'hui une société peut dépasser ces clivages culturels et raciaux qui traversent et empêchent le pays d'avancer.
Et continuer à rendre visible, finalement. C'est ça, ultimement, le travail.
Oui,
artistique.
Et revisiter ces images et repenser ces images.
Et faire mentir la temporalité comme avec les populations indigènes, c'est que tout est possible encore.
S'il te plaît, je voudrais
C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Jacqueline Nard, Livia Melzi et Hortense Bellotte. Les références à vos parutions, expositions, livres sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son d'Alia, à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous. Merci.